Ah non, attends, j'ai oublié un truc.
Qu'est-ce que c'était?
Ça paraît des mots, mais c'était pas des mots.
De toute évidence, Adam invente alors l'hébreu.
Avec la langue.
Ah, je sais plus.
Je pensais que vous disiez que nous parlions en japonais.
Avec la langue.
Oh, j'ai sur le bout de la langue, ça m'énerve.
Tire ta langue, une émission d'Antoine Perrault, réalisée par Laetitia Coya.
Alors avant, Babel, le langage véritable de Dieu et d'Adam est le chinois.
Linguam nostram, in qua nati sumus.
Mon métier de linguiste n'est ni de me faire le chantre d'une langue commune, en l'occurrence l'anglo-américain, ni de faire entendre des accents de Cassandre, d'être une Cassandre à cocarde.
Avoir sa propre langue comme un trésor et pas comme une prison.
Aujourd'hui, nous avons en studio un duo, une diarchie, un aigle à deux têtes, je ne sais comment présenter, Souleyman Diamanka et Julien Barret. Tous les deux ont rédigé un livre paru chez L'Harmattan qui s'appelle « Écrire à haute voix, rencontre entre un poète et un linguiste ». Le poète, eh bien, nous allons commencer par en entendre un extrait.
Je m'appelle Souleyman Diamanka Didoua Diaby Djeneba, fils de Boubacar Diamanka Di Kantalombi, petit-fils de Makali Diamanka Di Mamadou Teneng, arrière-petit-fils de Demba Diamanka Di Lengel Nyama, etc., etc. J'ai été bercé par les vocalises silencieuses de mes ancêtres, et je sais que cette voix jamais elle ne se taira. Elle me souhaitera d'être un digne héritier de ce peuple nomade, d'être Doua Diaby Djeneba l'enfant Peul, descendant de Bilal Issadi Holle le bien nommé. Peuple d'amour dans le pays est un poème, et le drapeau une mosaïque de milliers de proverbes. Le peuple Peul et ses dictons, c'est comme la savane et ses hautes herbes, comme l'océan glacé et ses gouttes d'eau.
C'est tiré de l'hiver Peul. Et vous qui vous présentez au début de ce poème, Souleyman Diamanka, vous en êtes l'auteur. Vous parlez de berceuse. Julien Barret, dans le livre, parle d'invocation. C'est une sorte de présentation qui nous berce dans votre lignage, quasiment.
Oui, on peut dire ça. C'est une manière de me présenter, pas seulement comme un individu, comme ça, tout seul, avec un nom et un prénom, mais de me présenter comme un descendant. Et ça se fait beaucoup dans l'art griotique Peul. Et c'est un peu un hommage que j'ai voulu faire et à la famille et à cet art-là, qu'on appelle le Djalia.
Vous parlez des dictons, des proverbes. Et là aussi, on a l'impression que vous ne vous situez pas seulement Souleyman Diamanka dans une lignée, dans un lignage, mais également dans une langue avec, comme on dit en alpinisme, je ne sais pas s'il y a beaucoup de montagnes, je sais plutôt qu'il n'y en a pas, avec des prises.
Parce que ces proverbes-là, pour mes parents, sont les lignes de vie des individus. Chaque proverbe contient sa vérité. Et la situation dans laquelle on peut utiliser ce proverbe-là pour s'en sortir, et je ne sais pas combien il y en a exactement, mais pour lui, si je les connais tous sur le bout des doigts, je serais quelqu'un de bien et je m'en sortirais professionnellement, spirituellement, amoureusement, dans tous les domaines, parce que ça touche à tout. Ça touche à l'être humain, individuellement, mais de façon tellement précise que ça touche à l'universalité. Et j'y crois. J'ai tout misé sur ces poèmes-là, ces proverbes-là et ce que j'en ai compris. Et ça m'a rapproché de ma famille, ça m'a rapproché de ma chérie, ça m'a rapproché de mon instituteur et de ma passion. C'est un rapport aux mots et les mots sont partout en fait. Pas seulement les mots de l'éducation, mais les mots de l'échange, les mots de l'amour, de la haine, de la religion, de la loi. Tout ça, c'est des tournures de phrases qui font que on tient les gens et on leur donne leur humanité qui n'est pas héréditaire quelque part. Voilà, les Peuls ont réuni ça dans des proverbes et c'est super important. Et du coup, j'ai accordé beaucoup d'importance aussi aux proverbes français que j'ai croisés dans les dictionnaires et qui parlent un parisien un peu argotique. Dans sa langue, il va dire qui il est et où il veut aller, quoi.
Souleyman Diamanka, vous êtes né en quelle année?
Je suis né en 74.
Et où?
À Dakar, sur mes papiers. Et après, suivant comment on me raconte l'histoire de ma famille et mon histoire, des fois on me raconte que je suis né au Fouladou, Des fois, on me dit que je suis né dans la banlieue de Dakar qui s'appelle Gueule Tapé. Et je pose pas trop de questions parce que c'était une période un peu floue pour la famille. Véritablement, les papiers sont arrivés après. Mon père, il a su son âge très tard, en fait. Il comptait les lunes et c'est après, on lui a donné son âge en même temps que ses papiers. Il a calculé son âge. Là, ça fait que je sais pas son âge, lui, je sais pas l'âge de ma mère. Et mon âge et le lieu de naissance, peut-être que j'ai un peu plus, peut-être que j'ai un peu moins.
Et vous êtes arrivé en quelle année en France, du côté de Bordeaux, je crois?
Entre 75 et 76, je suis arrivé à Bordeaux. Et mon père était déjà là depuis 2 ans.
Et vous vous êtes intéressé à l'histoire de Bordeaux, qui est un ancien port de la traite?
Je m'y suis intéressé en CM1, parce qu'on nous faisait étudier beaucoup de choses dans les mythes et les légendes. Ulysse, tout ça, Hercule. Et en même temps, dans la même période, on nous a raconté l'esclavage. Et pendant longtemps, moi, j'ai mis ça dans la catégorie des mythes et légendes. Je n'ai pas voulu y croire. Et quand on m'a expliqué que c'était la réalité, je me rappelle avoir pleuré. Parce que si j'étais là, il y avait forcément quelqu'un de ma famille à cette époque-là. Et j'avais trouvé ça dur. Et grandissant dans une ville qui était très teintée par ça, j'ai été... J'ai eu les deux, quoi. J'ai aimé cette ville et en même temps, ce que la ville me racontait était douloureux au fur et à mesure que je grandissais. Sauf que maintenant, j'ai accepté et le sol sur lequel on repose, c'est aussi un trampoline, quoi. C'est pas seulement être là et regarder autour de soi, c'est aussi rebondir sur ce sol-là et atterrir ailleurs. Et je conseille ça un peu à tout le monde. On peut savoir qu'on a eu une cicatrice sur le bras, mais pas l'ouvrir chaque année pour se rappeler de la douleur qu'elle était et savoir oublier certaines choses, et surtout les plus douloureuses, parce que voilà, on est aujourd'hui, mais dans 10 000 ans, il y aura peut-être une vie, dans 2000 ans, dans 200 ans. Et pour qu'elle soit plus facile à vivre, il faut que les cicatrices d'hier, on puisse regarder ailleurs que là où elles sont. Quoi.
Julien Barret, vous avez rencontré Souleymane Diamanka à partir presque du titre de cette émission, Tire ta langue. Ça n'avait rien de biographique, ce n'était pas géographique, vous n'aviez peut-être rien à voir avec Bordeaux. C'est parce qu'il a une langue qui vous a intéressé en tant que linguiste.
Ma grand-mère habite à Bordeaux, c'est une coïncidence. À propos de Tire ta langue, ça m'a évoqué Tire ta langue, petite sirène, que je la coupe et je te donnerai l'élixir, le conte d'Anderson, mais vous êtes Perrault. Et pour ce qui est des mots, de toute façon, j'ai l'impression que toutes les rencontres, elles sont liées à la langue. Les gens qu'on rencontre ou ceux que je rencontre, souvent, c'est en parlant avec eux. Là, c'est là, effectivement, Souleymane Diamanka a une langue assez riche, en même temps que assez pure, même au sens du 17e. Et on s'est retrouvés autour de cette langue avec des préoccupations communes, bien que nous venions d'horizons qui étaient différents.
Le début de Liverpool que nous avons entendu, est-ce que vous pourriez nous rappeler les deux ou trois premiers vers où il y a justement cette énumération, Souleymane Diamanka?
Je m'appelle Souleymane Diamanka di Douadja Bidjaneba, fils de Boubacar Diamanka di Kantalombi, petit-fils de Makali Diamanka di Mamadou Teneng, arrière-petit-fils de Demba Diamanka di Lengel Nyama, etc., etc.
Qu'est-ce que ça vous fait, vous, Julien Barret, d'entendre cette énumération de noms au pouvoir évocateur extraordinaire? On peut en juger à la fois dans le disque et dans ce qui vient d'être dit par Souleymane Diamanka lui-même.
C'est la part de ce que je ne peux pas déchiffrer à première vue ou à première oreille. C'est les noms, effectivement, la langue Peul dont j'ai appris petit à petit que c'était une langue très complexe, assez concrète, avec des classes d'objets. Et j'imagine, puisque je suis francophone et pas Peul, qu'il doit y avoir une transposition entre un univers linguistique Peul vers le français qui arrive à retrouver les récurrences phonétiques, sonores, la rime inhérente à la langue française, à partir de structures de répétition qu'on a, qui peuvent être des déclinaisons de groupes de mots, des suffixes. Et moi, ce qui m'intéresse chez Souleymane Diamanka, c'était d'y retrouver ce que j'avais vu chez certains rappeurs quand j'ai sorti un livre en 2008 chez L'Harmattan, Le rap ou l'artisanat de la rime, c'est-à-dire la rime équivoquée des grands rhétoriqueurs, des poètes de la fin du Moyen-Âge. Avec ce titre, par exemple, Le rêve errant du rêve errant, et une série de rimes équivoquées. En fait, vous prenez toutes les figures de style qui existent depuis Quintilien, c'est-à-dire juste après Jésus-Christ, après Cicéron, et après Aristote dans la rhétorique et la poétique. Vous prenez toutes ces figures de rhétorique, les figures qu'on enseigne à la Sorbonne, avec un jargon, puisqu'on parle à l'époque, on parlait de micro-structural et de macro-structural. Toutes ces figures-là sont au centre, au cœur des textes de Souleymane Diamanka, comme elles sont au centre du rap et du slam en général.
Mais Souleymane Diamanka, avez-vous parfois eu l'impression d'être victime de vivisection et de trouver en Julien Barret, linguiste tout à fait pacifique, votre vivisecteur?
Non, j'ai eu l'impression de croiser un traducteur. Il m'a traduit...
Langage Sorbonne.
Ouais, pour les gens qui parlent sa langue. La chance que j'ai et la chance qu'ont les gens qui discutent avec des gens surdiplômés, c'est que tout ce qu'a appris, enfin une grosse partie de ce qu'a appris Julien sur les bancs de la fac avec des profs pas toujours cool et pas une terrasse de café et tout ça, moi je l'ai appris mais par son filtre, juste par sa passion, par son parler. Il m'a dit tout ce qu'il avait appris, digéré, assimilé, ce qui était devenu lui. On en a parlé dans des conversations et il m'a appris ça. Comme mes potes photographes, ils m'apprennent la photo. Mes amis peintres m'apprennent la peinture juste dans la conversation. Et voilà, il m'a traduit au Sorbonne Man et Sorbonne Woman. Et aussi, il m'a offert des diplômes. Parce qu'un des trucs que j'ai compris trop tard, c'est que mes parents, ils sont surtout venus ici pour qu'on étudie. Et le temps qu'on comprenne que l'éducation nationale, en fait, c'est pour apprendre des choses qui vont nous servir plus tard et c'est pas pour essayer d'exister en tant qu'individu. Parce qu'à l'âge où on est là à apprendre, on essaie de s'affirmer. Et s'affirmer, c'est dire non, c'est ben, si tout le monde fait comme ça, moi, je veux pas du tout faire comme ça pour être moi-même. Et au même moment, on nous dit que non, faut que tu fasses comme tout le monde pour apprendre. Et ensuite... Une fois que tu auras appris à apprendre, tu pourras tout apprendre. Et ça, je l'ai appris trop tard. Et du coup, je le remercie de m'offrir ce diplôme à travers ce bouquin. Quoi.
C'est de l'art ignare et c'est embêtant. Je ne suis qu'un pauvre griot assis au pied d'un baobab en béton. Je rêve de l'Afrique, rêve de l'Afrique comme l'enfant adoptif rêve de ses vrais parents. J'ai grandi ici et c'est pas marrant tous les jours. Quand tu réponds au signalement, on te croit pas, même si tu le jures sur ce que tu as de plus cher, ma sœur. C'est de l'art né dans un local qui sentait bon la sueur. Ouais, c'est moi le cancre. Les feuilles cornées pleines de taches d'encre. Mais il est tard, ma sœur, il faut que je rentre. Écrire une chanson de paix pour ne plus qu'on se plante. Pour des histoires de papier de banque. Qu'ensemble on remonte la pente, qu'on ne puisse plus dire que les soirées hip-hop sont des soirées violentes. C'est signé Diamant Capullo Fuladou, habitant de nulle part, originaire de partout.
C'était extrait de l'art ignare. C'est la fin de cette chanson ou de ce poème, Souleymane Diamanka. Nous avons là quelque chose qui revient souvent, qui est le corps, la sueur. Vous ne faites pas une poésie qui s'arrêterait au niveau des sourcils, hein, visiblement. Pour vous, le corps... est une forme de signature presque.
Oui, il y a la notion de travail. Ça, c'était beaucoup par rapport encore à mon éducation. Pour mon père, un homme doit travailler. Et c'est à la sueur de son front qu'on bâtit sa maison, c'est à la sueur de son front qu'on se nourrit, qu'on nourrit les siens. Et c'est à la sueur de son front qu'on montre qu'on est quelqu'un de vaillant. Et quand il a vu que c'était ma passion qui allait devenir mon métier, il bloquait sur le fait que voilà, il n'y a pas de sueur dans ton travail. Comment tu te rends compte, toi, que tu as travaillé plus qu'hier? Où est la difficulté, quoi? Parce que lui, être un homme, être un être humain digne de ce nom, c'est se battre contre une difficulté, aller au-delà de ses limites et avoir quelque part l'ivresse des vainqueurs. C'était difficile, je l'ai fait, je suis fier. Et c'est pour ça qu'il y a, dans mon travail, tous ces palindromes, tous ces trucs super techniques pour que... je ne sois pas caché derrière l'écriture pour faire de la rédaction, mais qui est un véritable travail. Et je savais qu'un jour, je croiserais quelqu'un comme Julien, quelqu'un qui n'écoute pas seulement un texte de rap ou de slam en se disant « ouais, ces jeunes-là ont des choses à dire », mais qui regarde et qui zoome là-dedans et qui voit qu'il y a un véritable amour et un véritable travail. Parce que j'ai grandi avec Hamid Ben Mahi, qui est un super chorégraphe maintenant, un super danseur. Et le seul mot qu'il avait à la bouche, c'est travail.
Et la technique.
Et la technique, elle passe par le travail. Pour atteindre une certaine liberté et une certaine virtuosité, il faut connaître la technique. Et si la technique, elle n'existe pas, ou elle est au conservatoire, on n'y a pas accès, on s'invente notre propre technique. Et c'est ça le hip-hop, c'est réussir à faire de la musique sans instrument, c'est danser dans la rue puisque les portes des théâtres ne sont pas ouvertes, et créer des happenings, montrer qu'on peut créer avec tout. Si on n'a pas de galerie d'art, ben, la rue, ça va devenir notre galerie d'art.
La technique dans le hip-hop, dans le rap, elle est primordiale, c'est... Une technique au sens où Paul Zumthor, un grand médiéviste, dit que la langue du Moyen-Âge, la poésie du Moyen-Âge est technique, au sens où c'est un objet d'artisanat, un poème, une forme fixe, avec des rimes, avec une métrique qu'il faut respecter. C'est pas un art post-moderne, déstructuré, après le surréalisme et le dadaïsme qui aurait volé en éclats dans une sorte de société postmoderne où on met un tableau sans couleur, il y a du monochrome, etc. Après le XVIIe siècle, l'instauration, après même la Pléiade, on a fait voler en éclats toutes ces règles. Et aujourd'hui, le rap, le slam et cette poésie portée en particulier par Souleymane Diamanka, c'est une poésie qui retrouve de la même façon peut-être que l'Oulipo essaye de rebâtir quelque chose sur des contraintes génératrices. Le rap, malgré lui, retrouve des figures de rimes, comme la rime équivoquée, la rime couronnée, qui répète deux fois la même syllabe, retrouve des figures, des comparaisons, des métaphores, et d'abord, les deux éléments essentiels de la poésie orale, que sont le rythme et la rime. Le rythme, c'est le battement de mesure, là. Il est premier, c'est le battement de l'instrumental, qui a été ensuite, qui est originel, qui a été transformé par la métrique. Et la rime, c'est l'homophonie, la résonance, l'équivoque, qui fait que aussi il peut y avoir une des facultés à l'origine mnémotechnique de la rime. On retrouve aujourd'hui des attributs essentiels de la poésie du Moyen-Âge qui ont disparu avec cette langue du XVIIe siècle qui a été polissée et qui a subi tous les avatars jusqu'à arriver à nous.
Nous venons d'entendre Julien Barrec, qui a eu ses expressions à propos du rap, qui retrouve « comme malgré lui ». Et Souleymane Diamanka, c'est dans ce « malgré lui » que j'aimerais que nous puissions nous arrêter un instant. On a l'impression, en vous lisant et en vous écoutant, qu'il y a un équilibre que vous avez trouvé entre le sens et le son, entre la précision et le frisson. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il y a ce travail dont vous parlez, un travail sur les mots, où vous avez presque votre fil à plomb. Et d'un autre côté, on a l'impression que vous vous laissez happer par quelque chose d'autre qui entraîne le texte. Ouais. Et donc, comment vous fonctionnez entre ces digues et ce qui vous entraîne ?
En fait, je laisse le truc faire un peu comme un surfeur. Je sais qu'il y a toujours un flux et un reflux et que les mots, ils sont toujours là et que l'inspiration, c'est juste choisir un thème et c'est juste être focus, en fait. Je ne me pose pas la question.
Vous dites focus, c'est-à-dire comme s'il fallait faire le point ?
Oui, exactement. Il y a le flot de mots, il est toujours là. Du moment où je pose mon attention sur n'importe quoi, il y a quelque chose qui va naître de ça. Et ce que je fais, en fait, je nourris mon subconscient un maximum de tout et n'importe quoi. Et ensuite, je choisis un support où je vais redonner ce que j'ai reçu, mais par un filtre. Si je choisis de peindre, tout ce que j'ai vu dans les dernières 72 heures, ça va influencer ma peinture. Et je suis très, très conscient de ça. J'écoute des CD audio, des choses. Je me mets dans un certain état qui va forcément faire naître quelque chose. C'est comme se nourrir, en fait. Tout à l'heure, j'ai vu une action dans le métro qui m'a scandalisé. Et en même temps, il y a un côté, on en est sûr, on vit dans cette société-là, tout ça. J'ai vu une action pas belle en arrivant tout à l'heure. Et je sais que cette émotion-là, je vais la restituer. Et c'est juste à être conscient d'être un canal et que tout ce que j'ai vécu, cette émotion aussi forte soit-elle, elle va prendre sa forme dans un poème. Tout ce que vous avez entre les mains, je sais tout ce que j'ai vécu avant d'écrire ces poèmes-là et pendant. Et au-delà de tout le travail technique, il y a tout mon état émotionnel qui est dans chacune des lignes que j'écris. Je me sers de l'état dans lequel je suis. Et depuis que je suis venu au monde, je sais que je suis né dans un poème. L'histoire de mes parents, comment on me l'a raconté, dans quelles conditions je suis né, tout ça, c'est des conditions romanesques et poétiques pour moi. Et c'est juste d'accepter cette vie-là et de créer à l'intérieur de ce jardin. Et c'est forcément de la poésie. Je ne me suis jamais posé la question de comment les auditeurs vont prendre le truc, tout ça. Cette rencontre avec M. Boudou en CE2, il a allumé quelque chose et il m'a fait comprendre que ça ne s'éteindrait jamais, à part si moi, j'accepte de l'éteindre. Du coup, j'écris avec le cœur et personne ne peut me dire que ma main n'est pas jolie. Personne ne peut me dire que mon poème n'est pas joli. Il est. Et je le fais comme ça. Comme on met un enfant au monde, personne ne dira qu'il n'est pas beau. Il est.
Les mots sont les vêtements de l'émotion. Et même si nos stylos habillent bien nos phrases, peuvent-ils vraiment sauver nos frères du naufrage? Les poètes se cachent pour écrire ces peines. Les gens de regard regardent nous. On a traversé des rivières debout à la nage. On a dormi à jeun dans la neige, on est encore debout. Les poètes se cachent pour écrire, chacun purge sa pénombre. Dans une solitude silencieuse que certains pourraient craindre, en somme les mots de s'additionner comme des nombres. La poésie opère comme une lumière mangeuse d'ombre. J'aime cet état, mais le temps qu'on passe à l'attendre n'est pas si tendre. Parfois il faut presque s'éteindre pour l'atteindre. Versificateur notoire, chaque rime est une cascade. Dans les lieux oratoires, l'auditoire n'aime pas les phrases fades. Dans ma vie, j'ai écrit plus de textes que ne reflète d'étoiles le grand lac Tchad. J'ai cherché la vérité dans les lignes de chaque énigme, de chaque conte et de chaque charade.
Là, nous avons presque quelque chose d'hallucinatoire, je trouve. C'est la première plage, les poètes se cachent pour écrire, de cet album de 2007, L'hiver Peul. Mais revenons avec vous, Julien Barret, sur ce que disait à l'instant Souleymane Diamanka à propos d'une scène pas très belle qu'il a vue dans le métro. Il y a, chez le poète, chez le griot, une dimension sociale et politique. Il répond à une demande sociale et il fait de la politique. Et j'aimerais que vous nous parliez de cet aspect des choses, Julien Barret.
Le poète, le griot, parle dans la société. À partir du moment où les mots sont dits, ils font partie du monde, dans un monde social. Je suis par ailleurs assez réticent en général à parler de politique. Là, c'est le cas particulier de Souleymane Diamanka, et je pense que ça s'applique aussi à lui. Mais en général, quand il est question du rap, le sens commun... les sociologues, les journalistes envisagent toujours la révolte politique en considérant, j'élargis un tout petit peu par rapport à votre question, en considérant la dimension politique d'une parole qui serait une parole de révolte, qui serait une rébellion contre la société à partir du moment où c'est la parole, puisqu'on est dans la poésie orale d'aujourd'hui qui est portée par le rap, le slam et aussi le griot peut-être. Une parole qui vient souvent, bien que ce ne soit pas tout le temps le cas, des cités. Le fait d'avoir écrit un livre sur le rap, d'avoir beaucoup réfléchi à ça et de l'avoir écrit contre les sociologues pour qui le rap se réduisait à un message politique, fait que je suis assez peu aujourd'hui familier de ce genre de réflexion. Je serais plus enclin à vous dire ok, mais je pense que le côté, enfin pour les gens, pour la perception extérieure qui peut être celle du rap aujourd'hui, il faut prendre en considération la dimension poétique singulière, sans, malheureusement, on a trop tendance à considérer comme un ensemble de façon réductrice. Aussi bien le regard peut être amélioratif, comme on dit à la Sorbonne, que péjoratif, mais ce serait le même regard qui est porté à distance sur ces gens. Et je sais que je ne réponds pas précisément à votre question, mais peut-être que j'avais envie de dire ça. Donc, ce n'est pas de la politique. On est dans la poésie pure.
Alors, Souleymane Diamanka, poétique, politique, politique.
J'ai cru inventer un mot une fois, et en fait les linguistes ils connaissent tous les mots, même ceux qu'on invente. J'ai cru inventer poéticien. Les poètes qui étaient très proches des politiciens dans leur manière d'aborder les mots. Quand j'étais petit, un des premiers trucs que je me suis dit en regardant les hommes politiques, je me suis dit ce sont de mauvais poètes.
Une fois de plus, il rejoint Paul Valéry qui avait la chaire de poétique au Collège de France. Puisque avec Paul Valéry, nous, on a beaucoup discuté de... Tout est déjà dans la langue, ouais. Comment naît, comment mettre le monde entier dans un poème et tout ça. Me permettez cette incise.
Ouais, je t'en prie.
Et donc, c'est un poéticien, c'est un spécialiste de poétique comme un statisticien ou un rhétoricien.
Mais vous en étiez à un passage crucial où vous disiez, Souleymane Diamanka, que les hommes politiques étaient de mauvais poètes, c'est ça?
Oui, pour moi, enfant. Et là, étant un enfant d'un certain âge maintenant, je vois que j'ai l'impression que c'est comme la monnaie. La monnaie en elle-même, elle n'existe pas. Et la politique en elle-même n'existe pas. C'est quelque chose pour échanger, mais ce n'est pas l'objet. Vous comprenez? Avec 2 euros, j'aurai ma pomme. Les 2 euros, c'est le chemin pour aller jusqu'à la pomme, mais ce n'est pas la pomme. La politique représente les 2 euros. Il y a la vie en société. La politique est censée me permettre d'aller vers la vie en société, mais ce n'est pas la vie en société. Et du coup, on passe beaucoup de temps dans un labyrinthe à parler, à déplacer énormément de mots, mais on est dans l'échange monétaire. On n'est pas dans l'échange du fruit, quoi.
Prenons le cas du slam. Quand on assiste à des tournois de slam, il y a, peut-être pas le combat, mais il y a la notion de joute, de joute
le
oratoire.
Le spectacle, en fait. La joute est le prétexte.
Le tournoi aussi.
La joute ou le tournoi est le prétexte au spectacle. C'est plus spectaculaire de mettre des gens face à face, des fois, que de les mettre côte à côte. Et c'est quelque chose qui est dans la nature humaine depuis longtemps. On regarde beaucoup les gens qui sont face à face sur un thème commun ou 2 équipes face à face plutôt que 2 équipes ensemble. Et ça pousse aussi chacun des participants à se surpasser. J'ai fait énormément de concours en arrivant ici à Paris et ça m'a permis de rencontrer plein de poètes qui sont aussi devenus des amis ou des collaborateurs. Et ça m'a permis ce luxe d'avoir un public vivant plutôt que d'être dans sa chambre et tenir le flacon de parfum comme si c'était un micro et de s'imaginer avec un public. Le slam, ça offre ça et ça offre aussi une gratuité et ça offre un verre. Celui qui dit un poème, on lui offre un verre et il n'y a pas d'autre discipline comme ça. Quand je vais jouer à un match de tennis, personne ne me dit « Ah super, on t'offre un verre pour avoir fait ça ». Ou même le fait de danser, c'est le slam, il y a ce truc-là. On t'offre une convivialité, quoi. Et c'est magnifique.
Il y a une dimension politique, c'est la politique de proximité, quoi. Tout le monde est le public, tout le monde est le poète, tout le monde
une tribune
participe.
De libre expression.
On monte sur scène, il est censé n'y avoir ni déguisement, ni musique, ni rien. Et schlem, c'est l'étymologie supposée.
Et il n'y a pas beaucoup de lieux comme ça où la France est mélangée. Chaque fois que je suis allé voir une slam session ou un tournoi de slam, tout ça, derrière cette idée de joute, il y avait des chefs d'entreprise, des lascars, même des clochards des
employés
fois,
de la poste,
qui entendaient que ouais, dans ce bar-là, si jamais tu dis n'importe quel poème, on t'offre ce que tu veux boire. Il y avait Jojo, je sais pas s'il est encore parmi nous, Jojo. Il venait à chaque fois, il gribouillait un truc sur le comptoir et ensuite on lui offrait son verre. Et une fois, Ruda a regardé ce qu'il avait écrit sur le texte de Jojo, qui est quelqu'un qui habite dehors, et il y avait juste écrit « Je reviendrai et je ne dirai rien ». Il a répété ça 5 minutes.
Le poète se cache pour écrire, c'est pas une légende, John Banzai, regarde-nous. Toi et moi, c'est l'écriture qui nous lie. C'est dans la solitude qu'on apprend la convivialité, tant pis pour celui qui le nie. Le feu passe au vert et l'oralité passe par nous.
C'était Tire ta langue, une émission d'Antoine Perrault avec Souleymane Diamanka et Julien Barret. Co-auteur de « Écrire à haute voix, rencontre entre un poète et un linguiste » publié chez L'Harmattan. Prise de son, Bruno Martin. Réalisation, Laetitia Coya. Je vous rappelle que vous pouvez réécouter, télécharger, voire commenter en ligne, nous sommes gourmands de vos commentaires, sur le site de Tire ta langue, niché dans franceculture.fr. Pour l'heure, il est temps de retrouver Charles Danzig, secret professionnel.
Sukatori, Hada, Sodi, Jaya.